quand on analyse les chiffres, ce qu'on voit, ce qui s'est passé pour la première fois en fait depuis 3 ans, c'est qu'il y a une reprise, par exemple, des ventes au détail, et donc en fait une reprise de la consommation intérieure, on espère, alors que jusqu'à présent, la croissance espagnole était essentiellement tirée par les exportations. Donc s'il s'avère qu'il y a effectivement une reprise de la consommation, il y a aussi une hausse de l'investissement industriel, donc là, ce serait très positif, et ça pourrait être une indication de sortie durable de la récession. En revanche, si ça ne se confirme pas, effectivement, la croissance espagnole risque de n'être tirée que par les exportations, donc plus chaotique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la performance à l'exportation de l'Espagne est assez bonne, en fait. Quand on la compare aux autres pays européens, d'abord, elle ne s'est pas aussi affaiblie que dans d'autres pays, comme par exemple la France, où la performance à l'exportation s'est constamment dégradée et est beaucoup plus fortement qu'en Espagne dans les années passées. Mais en plus, depuis le début de la crise, la performance à l'exportation de l'Espagne s'est beaucoup redressée. Notamment, ils arrivent à exporter vers d'autres pays émergents en Amérique latine et puis aussi même au sein de la zone euro. Donc il y a une forte amélioration de la compétitivité espagnole.
Si le taux de chômage si haut reste à ce niveau, est-ce que ça peut plomber la croissance et le début d'une reprise ?
Le chômage en soi ne va pas empêcher la reprise, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça empêchera une reprise forte, parce que les personnes qui sont au chômage, en fait, vont consommer très peu, vont effectivement ne pas faire de projets sur l'avenir. Et donc ça va continuer effectivement à freiner toute la partie composante domestique en fait de la croissance. Et donc là, la croissance espagnole restera malheureusement faiblarde.
Le secteur bancaire espagnol qui avait été montré du doigt, qui avait été largement aidé par des subventions publiques, est-ce qu'aujourd'hui il est de nouveau sur pied ou est-ce qu'il pose toujours problème ?
Alors, le secteur bancaire espagnol, en fait, on s'est beaucoup inquiété. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le secteur des coopératives espagnoles. Mais en fait, c'est assez délimité, c'est-à-dire que c'était un secteur particulier qui avait beaucoup investi dans les prêts immobiliers. Les fonds qui ont été injectés pour capitaliser ce secteur bancaire n'ont pas fait à peu près 4% du PIB. Mais c'est pas non plus une somme colossale quand on compare à d'autres pays. Ça n'a rien à voir avec l'Irlande, l'Islande ou d'autres pays où des sommes colossales ont été investies. Donc c'est plus circonscrit. En plus, l'Espagne avait pour la possibilité d'utiliser 100 milliards d'euros du mécanisme européen de stabilité et ils ont utilisé que 40 milliards, donc ça prouve qu'ils ont encore des marges de manœuvre. Et en fait, je dirais que la réponse, on la connaîtra en fait sur l'état du secteur bancaire l'an prochain parce qu'on va avoir une revue de la qualité des actifs bancaires faite par la BCE. Mon intuition, c'est qu'en fait, l'Espagne en sortira plutôt renforcée parce que les cabinets privés qui vont faire cette analyse sont déjà ceux qui avaient fait les analyses précédentes en Espagne. Cette analyse qui avait été reconnue comme étant particulièrement détaillée et approfondie. Je suis relativement optimiste personnellement de ce point de vue-là. Un petit bémol malgré tout, c'est que si effectivement la croissance espagnole continue à être faible et que le secteur immobilier continue à se dégrader avec les prix qui chutent, évidemment, ça aura un impact négatif sur le secteur bancaire, c'est-à-dire qu'il y aura plus de crédits non performants, il y aura plus de provisions à faire, mais il est peu probable qu'il y ait une surprise majeure.
Un programme de rigueur a été mis en place dans le pays, et la rigueur, on en revient un peu au niveau de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a un peu sous-estimé les conséquences d'une telle politique. Qu'en est-il de l'Espagne spécifiquement par rapport à la rigueur ?
L'Espagne a eu, en fait, comme beaucoup de pays qui étaient en crise sur les marchés financiers, avec ce qu'on appelle les spreads, donc des écarts de taux entre les taux d'emprunt de l'État espagnol et ceux de l'Allemagne, par exemple, qui étaient extrêmement importants. Il y a eu un besoin, en fait, de montrer que l'Espagne allait rapidement réduire son déficit budgétaire afin de rassurer les investisseurs. Alors, en fait, c'est un peu à double tranchant parce que ça peut rassurer les investisseurs comme ça peut en fait dégrader encore plus la croissance économique, ce qui peut après les effrayer en retour. Et en fait, dans un pays comme l'Espagne, c'est effectivement important de ne pas ajuster trop vite, pas réduire trop vite le déficit budgétaire, parce que l'économie par ailleurs réelle, enfin non publique, privée, s'ajuste aussi. On a eu les difficultés du secteur bancaire qui fait que certaines banques ont réduit leurs prêts. On a aussi les ménages qui ont été très endettés avec l'achat immobilier, avec un fort taux de chômage qui réduisent leur consommation et qui se désendettent. Donc si, en plus, on rajoute une réduction très rapide du déficit budgétaire, en fait, on risque d'aggraver la situation. En fait, c'est très bien même que l'Union européenne ait accepté que l'Espagne retarde un petit peu ses objectifs de retour au déficit de 3%, un chemin de rétablissement des comptes publics plus progressif.